question du soir, Quentin l'a fait.
Une frappe israélienne ce matin sur l'hôpital de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, a causé la mort de 20 Palestiniens, parmi eux 5 journalistes. Et alors que tout au long de l'été, le décompte des Gazaouis tués, hommes, femmes, enfants, n'a cessé d'augmenter, alors que l'état de famine a été reconnu dans l'enclave par l'ONU il y a quelques jours, des voix de plus en plus nombreuses, émanant des études juridiques, de la recherche, du monde politique, d'ONG et d'écrivains, parfois israéliens, qualifient désormais la situation à Gaza de génocide. Alors, une question ce soir, génocide à Gaza, en quoi le terme fait-il encore débat? Comment se positionnent les juristes, les historiens, les chercheurs? Et donc, trois invités pour en discuter ce soir. Julie Grignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure associée en droit international humanitaire à Paris Panthéon Assas, membre du CRDH, le centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Face à vous, Alban Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste des génocides du XXe siècle, chargé de cours à Sciences Po Bordeaux, formateur au Mémorial de la Shoah. Vous avez fait paraître notamment l'ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter » qui ont paru en janvier dernier aux éditions du Seuil. Et avec nous à distance, Raphaël Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit international à l'Université Bourgogne-Europe, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de l'ouvrage intitulé « La Cour internationale de justice » qui a paru aux presses universitaires de France. C'était l'an dernier. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Ce n'est pas l'Holocauste. Il n'y a pas de camp d'extermination ici. Il n'y a pas de Treblinka, il n'y a pas d'Auschwitz. Mais il s'agit tout de même de la même famille de crimes. Et aujourd'hui, il existe un consensus croissant parmi tous les juristes et les historiens, certainement après le récent siège de Gaza. Le génocide n'est pas le mot juste. Le génocide, c'est une situation, un processus. Les gens vivent sous la menace d'un génocide. Ce qu'ils endurent est incroyable. Nous devons comprendre ces gens.
La voix de l'historien israélien Amos Goldberg, il s'exprimait le 26 mai dernier. On va revenir en détail sur ces mots, sur ce qu'il disait. Mais je voudrais d'abord, avant cela, qu'on revienne sur l'opportunité même d'un débat comme celui-ci. L'opportunité d'un débat sur le terme même de génocide. Au fond, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, beaucoup disent à quoi sert-il de s'écharper sur les mots quand le réel, lui, est irrécusable. Des dizaines de milliers de morts, un blocus humanitaire, un état de famine. Pourquoi alors discuter, débattre sur le terme de génocide? Qu'est-ce que cela implique, Alban Perrin, pour commencer?
Ce débat, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, le mot génocide, on dirait qu'il a été inventé pour que les gens se disputent. Et en fait, c'est un outil qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour permettre le jugement des auteurs de crimes de masse visant la destruction intentionnelle d'une population. Mais si on sort du registre du droit, où c'est déjà assez compliqué pour les juristes entre eux, et qu'on essaye de basculer dans le champ des sciences sociales ou en histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun consensus chez les historiens sur la définition du terme. Et il y a même une certaine forme d'impensé, c'est que les historiens reprennent un terme qui vient du droit, mais en fait dont ils vont faire autre chose, et donc en essayant de rebricoler une définition du mot génocide. Et on s'aperçoit en fait dans les sciences sociales que pour ce qui nous concerne, nous, la connaissance des faits, le terme génocide, il nous apporte pas grand-chose, parce que autant un tribunal a besoin de qualifier les événements pour pouvoir condamner les auteurs de crimes de masse, en disant ça relève de tel ou tel type d'incrimination, autant en histoire, on est absolument pas contraint à ce type de démarche.
Julien Grignon, il apporte pas grand-chose ce terme de génocide, même pour les juristes?
Alors si, il apporte beaucoup pour les juristes parce qu'il va distinguer le crime de génocide d'autres crimes, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qui peuvent être commis dans le cadre d'un conflit armé. Pour nous, les juristes, les choses sont peut-être un peu plus claires parce qu'on a effectivement une définition juridique sur laquelle on reviendra sans doute, mais sur l'opportunité d'avoir un débat sur le terme génocide, même du point de vue juridique, je crois qu'il y a deux volets pour répondre à cette question et qui sont parfaitement opposés. Le premier volet, pour moi, et c'est essentiel, je crois que c'est absolument nécessaire de nommer les choses. Et que donc, lorsqu'on est capable de dire que des crimes de guerre sont commis ou que des crimes contre l'humanité sont commis, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire une analyse juridique et de dire que vraisemblablement, un crime de génocide est en train d'être commis. Et qu'en plus, on est soutenu par un grand nombre d'organes des Nations Unies, par des cours internationales, qu'elles soient vis-à-vis de la responsabilité étatique ou la responsabilité pénale individuelle. Et donc, je pense que voilà, il y a des faisceaux d'indices qui concourent à arriver à cette conclusion. Et je pense que c'est indispensable de faire face à ce terme qui, par ailleurs, a un effet effectivement surplombant parce que c'est le crime des crimes et qui donc mobilise des aspects moraux tout à fait particuliers. Et je crois que, voilà, comme la morale est convoquée, ben aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité morale aussi, pas juste juridique, de regarder les termes pour ce qu'ils sont. Ensuite, et ça vient complètement inverser ce que je viens de dire, je pense que d'une certaine manière, c'est aussi contre-productif de focaliser le débat sur la notion de génocide et sur regarder dans les détails. Alors, il y a éventuellement le débat entre les historiens et les juristes, voire avec des politistes ou d'autres types de disciplines. Mais il y a même les débats entre juristes, où on peut effectivement discuter. Mais les juristes, on discute sur toutes les notions, même sur les crimes de guerre. Enfin, on parle de la famine aujourd'hui, je suis sûre que je pourrais avoir un débat sur la famine. Donc, ce n'est pas uniquement le génocide qui mobilise le débat, c'est tous les termes juridiques. D'ailleurs, le juge, c'est son rôle de trancher et de dire si oui ou non un crime a été commis, et donc si oui ou non un génocide a été commis. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'un juge se soit prononcé pour pouvoir constater que certains éléments concourent à cela. Et juste pour terminer sur l'effet contre-productif, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, il y a plusieurs crimes internationaux. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la bande de Gaza relève du crime de guerre, du crime contre l'humanité et du crime de génocide, des trois à la fois. Est-ce que c'est plus grave un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ? Non. Donc en fait, on finit par invisibiliser que des atrocités sont commises en se focalisant sur une notion.
Les trois sont tout aussi importants, on y reviendra justement, c'est nécessaire de le faire. Raphaël Morel, une réaction, on entend Julia Crignon qui nous dit dans le fond cela permet aussi de nommer les choses, ce terme de génocide, mais cela permet aussi d'actionner des procédures judiciaires.
Oui, c'est tout à fait exact. Sur la notion de nommer, Raphaël Lemkin qui a inventé la notion de génocide, on le sait, l'a justement inventé pour désigner, nommer un crime qui n'avait pas encore de nom. Donc effectivement, bien nommer les choses, c'est essentiel. Je crois qu'il y a trois raisons à l'invocation du génocide. D'abord, c'est vrai que c'est un crime qui n'est pas plus grave en droit international que le crime de guerre ou le crime contre l'humanité, mais c'est un rare crime pour lequel on a des obligations précises, claires, universelles. Il n'y a pas de convention internationale sur la prévention, par exemple, et la répression du crime contre l'humanité. On a une convention, celle de 1948, sur la prévention et la répression du crime de génocide, qui est une sorte finalement de mode d'emploi de ce que les États doivent, auraient dû, devraient faire pour éviter, punir un génocide. La deuxième raison, c'est que on a donc ces obligations assez claires sur le génocide qu'on n'a pas peut-être aussi clairement pour d'autres crimes. On a aussi une voie contentieuse qui est ouverte, c'est-à-dire que la convention permet de saisir la Cour internationale de justice pour finalement prendre à témoin la communauté internationale d'une situation pour accuser un État de ne pas prévenir suffisamment ou de ne pas réprimer l'existence d'un génocide sur son territoire. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est une voie contentieuse qui est particulièrement prisée, et évidemment l'Afrique du Sud s'en est saisie s'agissant d'Israël. Et puis enfin, c'est aussi un terme massu, le génocide, ça rejoint ce que disait Julia Crignon, que finalement, qui va choquer, qui va mobiliser les opinions publiques au support d'une cause et de l'arrêt des mobilisations, de l'arrêt du génocide par la mobilisation. Malheureusement, je suis assez d'accord avec l'idée que les débats sont en train de devenir contre-productifs, et il ne faut pas se limiter à un débat juridique sur les termes. Nous, on peut l'avoir entre nous, les juristes, mais voilà, il faut passer à la vitesse supérieure, et il faut maintenant que les États agissent et ne se replient pas derrière un débat juridique qui, lui, peut être tenu plus tard. Mais l'urgence, c'est ce qui se passe sur place.
On va essayer de comprendre justement votre point de vue de juriste sur cette notion de génocide appliquée au cas de Gaza. Mais avant cela, Alban Perrin, est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il dit que ce débat est d'abord affaire d'historien ? Vous qui êtes historien.
Et ça, c'est intéressant qu'il ait dit ça, parce que justement, c'est une notion de juriste. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de consensus du tout en histoire. Et la perspective que j'adopte chaque année avec mes étudiants à Sciences Po Bordeaux, jour, c'est de montrer qu'en fait, du point de vue strictement de l'histoire, le mot génocide est finalement un concept dont on peut se passer pour la description des faits. J'ai envie d'évoquer Marc Bloch et l'apologie pour l'histoire, Robespierriste, anti-Robespierriste, dites-nous simplement qui était Robespierre. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les massacres de masse. Avant de s'écharper pour savoir si tel ou tel événement est ou n'est pas un génocide, c'est important d'abord de décrire ce qui s'est effectivement passé. Et souvent, pour nous en histoire, le mot génocide intervient comme un terme écran, c'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger sur ce qui s'est effectivement passé, eh bien, on va se chamailler de manière indéfinie pour savoir si tel ou tel événement relève ou non de la catégorie de génocide. Et à chaque fois, vous avez des arguments pour et contre qu'on ne peut pas trancher, comme pour la grande famine en Ukraine en 1932, ou est-ce que quelle était l'intention finalement de Staline, est-ce qu'il voulait détruire la nation ukrainienne ou mettre en place l'État soviétique, etc.
Alors il faut partir, j'allais dire, de ces deux strates fondamentales pour comprendre ce qu'est un génocide, pour tenter justement de saisir ce qui se passe à Gaza. Julia Grignon, il faut commencer par la matérialité des faits. C'est la première étape qu'indique la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. S'agissant de la matérialité des faits, concrètement ce qui se passe sur le terrain, est-ce que cette première étape coche la case d'un génocide reconnu, établi pour la juriste que vous êtes ?
Alors, pour répondre à votre question, je dois nécessairement prendre les deux pans de la définition, c'est-à-dire à la fois la matérialité des crimes, c'est-à-dire constater que des actes prohibés sont commis, mais je dois également pouvoir rapporter la preuve que ces actes sont commis dans l'intention de détruire en tout ou partie.
Ce sont les deux strates, hein, la matérialité des faits et l'intentionnalité.
Absolument, mais pour justement qualifier le crime de génocide, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, parce que c'est ce qu'on appelle un dol spécial, et donc c'est rattaché en fait à la commission des crimes. Parce que si on regarde la liste des crimes qui peuvent être commis dans le cadre d'un génocide, le meurtre, par exemple. Le meurtre, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité s'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et c'est un acte de génocide si il est commis dans l'intention de détruire tout ou partie de la population. Donc, à votre question, je peux répondre oui, selon toute vraisemblance, des meurtres sont commis aujourd'hui dans la bande de Gaza, puisque des personnes sont tuées à bout portant, sans qu'elles présentent une menace, et dans le cadre d'un conflit armé, même lorsqu'on engage les hostilités, des meurtres peuvent être commis. Et un autre aspect qui, à mon avis, est particulièrement important, l'un des actes du crime de génocide, c'est la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et là, on rejoint la question de la famine, qui a été déclarée maintenant officiellement par les Nations Unies vendredi. Et donc, sur la matérialité des faits, la réponse est oui. Ensuite, appartiendra au juge de démontrer que ces crimes, ces actes, ont été commis dans l'intention de détruire tout ou partie de la population. Mais là, ce qui est très important, je crois, d'observer, c'est que, premièrement, on n'a pas besoin d'attendre qu'un juge se prononce pour, nous, les juristes, poser des qualifications juridiques. C'est notre travail tous les jours dans nos classes, dans nos cours. C'est ce qu'on apprend à faire à nos étudiants, c'est poser des qualifications juridiques sur la base de définition et du raisonnement juridique.
Parce que beaucoup disent, je me permets de vous couper, pardonnez-moi, la Cour internationale de justice n'a pas statué au sujet de la procédure qui a été entreprise par l'Afrique du Sud. Et donc, on peut pas se permettre aujourd'hui de qualifier ce qui se passe aujourd'hui. Gaza,
alors on ne peut pas parler de crime de guerre, alors on ne peut pas parler de crime contre l'humanité, on ne peut même pas parler de crime, on peut parler de rien. Il faut attendre qu'un juge se soit prononcé. À mon avis, ce n'est pas du tout le rôle du droit d'attendre que des juges se soient prononcés, et notamment parce que justement ces preuves sont très longues à accumuler, à rapporter. Et il faut bien distinguer entre notre rôle de juriste aujourd'hui de poser des qualifications juridiques pour démontrer que des violations sont commises, et le rôle d'un juge qui est de faire une démonstration au-delà de tout doute raisonnable en matière de responsabilité pénale pour engager la responsabilité pénale d'individus, et c'est bien normal, parce qu'il va s'agir éventuellement de les mettre en prison à perpétuité. Donc ça, on ne doit pas le prendre à la légère. Mon rôle et le rôle d'un juge est parfaitement différent. Par ailleurs, et je terminerai là-dessus, ce qui est essentiel aussi, c'est que la Convention de 1948 porte le nom de prévention et répression du crime de génocide. Or, si aujourd'hui on refuse de se prononcer sur la matérialité des faits et sur le caractère intentionnel, alors on ne peut pas déclencher le volet prévention de cette Convention, qui est un volet parfaitement spécifique. Et je crois qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel de faire vivre ce volet de prévention de la Convention, de se prononcer, et donc de faire en sorte que tous les moyens soient déployés pour prévenir un potentiel génocide si, toutefois, il n'était pas en train d'être commis. Mais visiblement, vu le nombre d'instances qui parlent de risque de génocide, je crois qu'on peut déclencher cette notion de prévention aujourd'hui.
Raphaël Morel, une réaction avant même d'ailleurs de se prononcer sur cette notion d'intentionnalité. Un mot sur la matérialité des faits, sur ces 5 points, car il y en a 5 établis par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Oui, alors sur la matérialité des faits, je rejoins l'analyse qui vient d'être faite et effectivement, on a, à mon sens, on a au moins 4 des 5 éléments, mais de toute façon, ils ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire qu'on a effectivement meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Tout cela, malheureusement, on peut le constater assez aisément au regard des faits qui sont établis. Le dernier élément possible, l'acte possible pour constituer cette matérialité, c'est le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ça, j'ai pas eu d'éléments en ce sens, mais voilà, l'un de ces éléments suffit à fonder la matérialité. Ensuite, je voulais rebondir sur la question du rôle de la justice internationale. Et je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que le temps de la justice n'est pas le temps de l'action sur le terrain. Effectivement, le droit, il vient poser des obligations de prévention, il vient poser un régime juridique et une possibilité, dans le meilleur des cas, de saisir une juridiction internationale pour faire valoir ses droits, envisager des réparations lorsque un fait internationalement illicite ou des crimes internationaux ont été commis. Mais voilà, il ne faut pas attendre que des juges sortent un fusil une fois qu'ils ont qualifié un fait et viennent faire cesser le conflit. Il faut qu'il y ait des prises de position, des États, et que les États réagissent sans attendre la justice. La justice, elle va prendre le temps, et c'est normal. C'est son travail, et c'est ce que l'on attend de la justice internationale.
Julia Crignon, vous avez souhaité réagir.
Oui, parce que je crois qu'effectivement, tout ça aussi s'auto-nourrit. C'est-à-dire que c'est aussi notre rôle de faire de la documentation. Il y a des ONG qui documentent, Amnesty International qui a produit un rapport très conséquent pour documenter certains éléments. D'autant plus dans un contexte où les journalistes internationaux sont complètement interdits dans la bande de Gaza. Et ça participe d'ailleurs, ça c'est tout à fait mis en place justement dans le cadre de cette politique. Et que en publiant des articles, en s'interrogeant sur ces notions, en ayant du débat avec des historiens entre juristes, on alimente aussi les juges qui plus tard vont devoir se prononcer.
On voit bien par conséquent que dans ce débat, ce qui justement continue de faire débat, c'est bien la notion d'intentionnalité. Est-ce qu'il y a une intention du gouvernement, de l'État israélien pour mener un génocide dans la bande de Gaza? Albin Perrin, qu'est-ce que l'histoire nous enseigne dans ce domaine lorsque des génocides sont reconnus comme tels par la justice internationale, par les justices nationales? Est-ce que cette notion d'intentionnalité est toujours compliquée, ardue à démontrer?
Non, elle n'est pas. Enfin, pour les grands événements du XXe siècle, pour lesquels il y a un consensus historique sur la définition du génocide, l'intentionnalité, elle est évidente. Avec la Shoah, c'est le protocole de la conférence de Wannsee, dont la page 6 comporte un tableau territoire par territoire et le nombre de Juifs à assassiner. Et de ce point de vue-là, si la Shoah, bien qu'il n'y ait pas eu de condamnation pour crime de génocide, est néanmoins considérée comme telle, c'est parce qu'on peut prouver non pas simplement que ces millions de Juifs ont été assassinés, mais que les nazis, en janvier 1942, ont établi clairement l'intention de tuer 11 millions de personnes. Et pour le Rwanda 1994, finalement, immédiatement, l'ampleur des massacres commis de manière systématique sur l'ensemble du territoire contre les Tutsis en tant que Tutsis faisait que, y compris pour ceux qui m'ont précédé au mémorial de la Shoah, immédiatement, il y a eu un parallèle fait sur la démonstration de l'intentionnalité et la qualification génocidaire, il n'y a eu aucun doute. Et dernier exemple que je voudrais citer, le cas des Arméniens, qui est un génocide qui est toujours pas reconnu un siècle après par la Turquie, qui est l'État successeur de l'Empire ottoman. En fait, si malgré tout on peut utiliser le terme génocide, c'est parce que au-delà de la question des massacres et des déportations, on se rend compte qu'il se passe les mêmes événements dans des provinces non contiguës simultanément à partir du printemps 1915, ce qui démontre bien qu'il y a une politique centrale. Donc dans ces cas-là, l'intentionnalité, elle est facile à démontrer, malheureusement.
La voix de Benjamin Netanyahou, il répondait justement à l'accusation de génocide, c'était le 26 janvier 2024.
Like every country,
comme tous les pays, Israël a le droit inhérent de se défendre. La tentative ignoble visant à priver Israël de ce droit fondamental constitue une discrimination flagrante à l'encontre de l'État juif. Elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël est non seulement fausse, mais aussi scandaleuse, et toutes les personnes honnêtes devraient la rejeter.
Quand on écoute Julia Grignon, les représentants aujourd'hui de l'État israélien, du gouvernement israélien, les différentes déclarations qu'ils ont pu commettre au cours des derniers mois, des dernières semaines, je voudrais vous en donner quelques-unes. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui explique « Dans quelques mois, nous pourrons déclarer que nous avons gagné, Gaza sera totalement détruite ». Fin de citation. Un autre ministre de la Défense, cette fois-ci, Israël Katz, qui écrivait « Il s'agit du dernier avertissement. Suivez le conseil du président des États-Unis, rendez les otages et jetez dehors le Hamas et de nouvelles options s'ouvriront pour vous, y compris la relocalisation dans d'autres parties du monde. Pour ceux qui en font le choix, l'alternative est la destruction et la dévastation totale. » Un dernier exemple, le ministre du Patrimoine qui a plusieurs fois parlé de bombes nucléaires qu'Israël pourrait lâcher sur la bande de Gaza. Est-ce qu'on a là affaire à un faisceau d'indices qui laisse entendre une intentionnalité ? Est-ce que cela correspond là à une définition juridique ?
Alors là, je vais reprendre les termes de deux de mes éminents collègues, Olivier de Frouville et Julien Fernandez, qui sont des spécialistes de droit international pénal, qui d'ailleurs cet été ont initié une tribune dans Libération qui a rassemblé plus de 150 juristes exprimant ce sur quoi on se mettait d'accord, même s'il peut y avoir donc du débat comme on l'a dit. Donc il y a quand même, on est quand même très nombreux à être d'accord sur des éléments essentiels. Et suite aux propos que vous avez
rapportés... Et qui reconnaît en creux, mais avec des détours de phrases, il faut le dire aussi, un génocide.
Tout à fait, oui. Et là, il n'avait pas attendu cet été pour se prononcer, puisque déjà en avril 2025, suite aux propos que vous avez rapportés, ils publiaient une tribune tous les deux dans Le Monde, dans lequel ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu dans l'histoire exprimer aussi ouvertement une intention de destruction d'une partie d'un groupe humain, et jamais à notre connaissance une telle intention n'avait été formulée si clairement. Voilà, quand vous avez deux éminents spécialistes de droit international pénal qui observent la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, qui observent les conflits, qui observent la manière dont surviennent les génocides et qui font cette déclaration, croyez-moi, c'est pas une déclaration qui est faite à la légère. Je pense que ce que vous avez dit, parler d'animaux humains, parler de dévastation totale, de destruction complète, c'est, et c'est pas les seuls à l'avoir fait, Raphaël Maison aussi a dit que c'était la libre parole génocidaire. Donc on est quand même un certain nombre à constater que, au cours de notre carrière, on a assisté à des génocides, le Rwanda en 1994, plus exactement le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ou encore le massacre de Srebrenica, qui a été reconnu comme un génocide en 1995, jamais on avait vu une telle libération de la parole et une telle intentionnalité déclarée.
Vous êtes d'accord avec cette affirmation, Alban Perrin ? Moi, ça me semble presque contradictoire avec ce que vous disiez au sujet de la Shoah, au sujet là aussi du génocide au Rwanda, au génocide des Tutsis.
Je voudrais ajouter un point, c'est que dans le cas de la Shoah ou du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, au génocide des Arméniens, les pouvoirs génocidaires ont inventé un ennemi imaginaire. Or, là, on est dans le cadre d'un conflit armé et que l'État d'Israël a été attaqué sur son territoire le 7 octobre 2023 et que la guerre qui se poursuit depuis 2 ans, elle se fait dans le prolongement de cette attaque terroriste de masse. Et donc, on n'a pas affaire là à un ennemi imaginaire, fantasmé. Il y a effectivement au départ une situation de conflit effectif. Même si, évidemment, le droit de se défendre n'implique pas le droit de commettre des crimes de masse contre des populations civiles.
Raphaël Moerel, une réaction sur cette notion d'intentionnalité. Est-ce que vous identifiez, vous aussi, une intentionnalité dans les propos tenus par les différents représentants d'extrême droite, pour la plupart, du gouvernement israélien ?
Oui, alors c'est effectivement un débat très compliqué que je voudrais essayer d'expliquer. Mais tout d'abord, revenir sur ce qu'a dit Alban Perrin. Évidemment, l'État d'Israël a bien un droit de légitime défense, et c'est d'ailleurs ce que dit son président en droit international. Mais bien entendu, cela ne l'autorise en aucun cas à continuer une politique de colonisation qui a été déclarée clairement illicite par la Cour internationale de justice, ni à commettre des actes que le monde entier a choisi de bannir de l'humanité en 1945. Donc c'est normal, évidemment, qu'ils s'en défendent. Et l'argument effectivement principal va être de dire il n'y a pas d'intention génocidaire. Pourquoi cette notion elle pose problème et pourquoi elle est tant discutée, c'est parce que, contrairement peut-être à ce que Alban Perrin nous a dit en matière d'histoire, en droit, elle est beaucoup plus complexe. Lorsqu'on observe la jurisprudence internationale, eh bien on se rend compte que le seuil pour établir, prouver cette intentionnalité, il est assez élevé. C'est-à-dire que cette intentionnalité, déjà les juridictions ont écrit dès les années 90 hein, qu'elle était rarement formulée de manière expresse. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie nous dit dans une affaire qui est célèbre que les signes de l'intention génocidaire sont rarement manifestes. Donc il faut effectivement aller chercher un ensemble de déclarations, un ensemble de faits. La Cour internationale de justice nous a dit dans les années 2000 que pour établir cette intentionnalité, il fallait qu'il n'y ait pas d'autre interprétation possible de la succession, de la ligne de conduite menée par l'État qui commet le génocide. Et ça rend les choses compliquées. Et donc, il y a débat là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'indices qui vont quand même dans ce sens. Vous en avez cité beaucoup. Et d'autre part, il faut signaler qu'il y a un certain nombre d'États, dont la France, mais elle n'est pas seule, il y a aussi l'Allemagne, le Danemark, qui plaident pour un abaissement de ce seuil et qui disent... On ne peut pas rester à un seuil qui est inutilement haut et il faut qu'on puisse prouver une intentionnalité sans forcément aller chercher la seule interprétation possible de ces faits. Il faut que ce soit un petit peu plus souple pour qu'on puisse nommer des génocides. Et donc voilà, il y a une autre procédure devant la Cour internationale de justice qui est initiée par la Gambie contre la Birmanie où la France exprime cette position en demandant à la Cour d'abaisser le seuil en tenant notamment... prenant en considération le fait que lorsque des enfants sont visés, par exemple pris parmi d'autres, eh bien cela peut montrer que finalement le but des actions matérielles n'est pas forcément uniquement sécuritaire, mais ça peut permettre d'inférer, de déduire cette intention génocidaire. Donc vous voyez qu'il y a un débat de juristes qui continue et qui est porté par des États.
Un autre débat de juristes, Julia Grignon, c'est intentionnalité, mais intentionnalité de qui certains disent, au fond, l'intentionnalité, elle est compliqué aujourd'hui à démontrer, car on ne sait pas si des ordres formels au sein de l'État ont été transmis, si des directives ont été diffusées. Est-ce qu'il faut cela, dans le fond, un engagement, j'allais dire, formel, juridique de l'État pour démontrer cette intentionnalité génocidaire ?
Alors, ça dépend quelle responsabilité on recherche. Est-ce qu'on recherche la responsabilité de l'État ? Ou est-ce qu'on recherche la responsabilité des individus? Et lorsqu'on cherche
C'est pas la même procédure.
Non, c'est pas la même procédure. La responsabilité des États, c'est la Cour internationale de justice dont Raphaël vient de parler. Et la responsabilité pénale individuelle, en l'occurrence, c'est la Cour pénale internationale, mais c'est aussi des juridictions nationales et qui donc vont chercher des responsabilités d'individus. Et donc la Cour pénale internationale, elle a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, nommément, pas... sur le chef de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, mais pas sur le chef de génocide. Elle pourrait le faire. Et d'ailleurs, quand elle a émis ses mandats d'arrêt, ce qui est intéressant, c'est que donc elle parle de crime de guerre et de crime contre l'humanité, mais dans le communiqué de presse qui a été formulé à ce moment-là, elle parle de conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile. Destruction d'une partie de la population, ça fait quand même résonner crime de génocide. Et donc c'est comme si la Cour se laissait la porte ouverte d'apporter ensuite une nouvelle incrimination de génocide. Et donc sur l'intention, oui, comme ce sont des individus qui sont condamnés, il faudra démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, comme l'a rappelé Raphaël Morel, pour pouvoir condamner ces personnes, qu'effectivement, elles ont soit donné des ordres qui ont concouru à la commission du génocide, soit qu'elles ont incité à commettre un génocide. Et si cette preuve est rapportée, alors ils pourront être condamnés du chef de génocide.
Est-ce que le nombre de personnes tuées, assassinées dans un génocide est, enfin, a de la valeur, si je puis dire, dans le fait qu'on reconnaisse que ce soit un génocide, Alban Perrin? Je pense notamment au cas de Srebrenica. Ce sont des proportions radicalement différentes avec le génocide au Rwanda contre les Tutsis. Hein, 8000 pour Srebrenica, 800000 pour les Tutsis au Rwanda. Et les deux sont qualifiés de génocide.
En fait, je vais répondre, mais c'est plus une question pour les juristes que vous avez invités, parce qu'en fait, le critère A de l'article 2 de la Convention de 48, c'est meurtre de membres du groupe, et il y a un S à membre, donc c'est à partir de 2. Voilà. Donc si deux membres du groupe, elle me sourit, donc j'ai bien répondu. Donc si deux membres du groupe,
elle valide avec le sourire.
Voilà, si deux membres du groupe sont assassinés simplement parce que voilà, c'est un meurtre, ça ne relève pas du crime génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut pouvoir démontrer que ces meurtres sont commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Donc c'est absolument pas le nombre de morts qui fait le génocide. L'exemple que je prends souvent avec les étudiants que j'ai à Bordeaux chaque année, c'est que le grand banc en avant qui est en Chine Chine populaire fait dans les années 50, d'après les historiens de la Chine, entre 30 et 40 millions de morts, eh bien, n'est pas considéré comme un génocide. On ne parle pas d'un génocide des Chinois, alors que c'est un crime beaucoup plus meurtrier que la Shoah. En revanche, lorsque de sa propre initiative, sans pression nazie, les Oustachas en Croatie, à partir de 1941-42, assassinent de leur propre chef 20 à 25 000 Tziganes, ça relève du crime de génocide parce qu'il y a un groupe qui est racialement défini et assassiné en tant que tel. Donc c'est pas le nombre de morts qui fait le génocide.
Une autre notion qui émerge au fil des semaines, justement au sujet de Gaza, c'est la notion de complicité de génocide. Il y a notamment des histoires entre États, puisque le Nicaragua a déposé le 30 avril 2024 une plainte visant l'Allemagne pour, je cite, plausible complicité de génocide en raison de ses fournitures d'armes. Et le mardi 29 juillet dernier, une requête a été déposée par une association d'avocats auprès de la CPI, cette fois-ci la Cour pénale internationale, visant le président français Emmanuel Macron, des membres du gouvernement ainsi que 19 députés, là encore pour complicité de génocide. Raphaël Morel, justement, comment aborder là cette fois-ci cette notion-là, celle de complicité ?
Alors, il faut distinguer les deux procédures qui sont tout de même
absolument
très différentes pour la raison qu'a rappelé Julia Grignon tout à l'heure.
Les États d'un côté avec la Cour internationale de justice
exactement,
et la CPI voilà, pour les individus.
S'agissant de la procédure que je connais le mieux, qui est celle devant la Cour internationale de justice, il s'agit effectivement d'essayer de mobiliser toujours sur le fondement de la Convention de 1948, en disant que l'Allemagne, en continuant à fournir un certain nombre d'armes dont elle ne peut pas raisonnablement ignorer l'utilisation contre des civils palestiniens, cette action de l'Allemagne constituerait une violation de la Convention et spécifiquement de l'obligation de prévenir la commission d'un génocide. Donc vous voyez qu'on est assez précis et que c'est un petit peu différent de la complicité de génocide, qui est une notion de droit international pénal, et donc qui est assez différente. Mais l'idée est la même. L'idée, c'est de faire la guerre par le droit, par d'autres moyens. C'est ce qu'on appelle le lawfare, et qui consiste à utiliser tous les leviers juridiques disponibles et donc de saisir le maximum de juridictions, d'institutions à propos d'un maximum de personnes, d'États, d'institutions qui pourraient être concernées de près ou de loin par ce qu'il se passe à Gaza, pour les faire réagir et susciter une mobilisation continue des opinions publiques et faire finalement bouger le gouvernement, pour le dire de manière triviale.
C'est d'abord donc, Julia Grignon, une démarche politique, justement, cette accusation portée auprès de la Cour pénale internationale ou d'autres juridictions, ces accusations de complicité.
C'est difficile à dire si c'est une démarche politique, c'est aussi une démarche juridique parce que c'est saisir des instances juridictionnelles. Mais effectivement, comme le dit Raphaël, et ça on le voit déjà depuis l'invasion de la Russie sur le territoire de l'Ukraine depuis 2022, c'est la manière dont les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels sont mobilisés par un très grand nombre d'acteurs pour apporter des réponses dans une situation alors que le conflit est encore en cours. Ça c'est véritablement nouveau. Souvent on avait des conflits, puis on avait la justice qui arrivait très longtemps après. Aujourd'hui, je pense que parce que des juristes ont été bien formés dans ma génération et de celles qui nous suivent, peut-être encore mieux que celles qui nous précèdent parce qu'on est plus nombreux et que l'intérêt s'est développé aussi grâce aux tribunaux pénaux internationaux, l'avènement de la Cour pénale internationale, etc. Et qu'en fait, ces personnes connaissent très bien les arcanes du droit, savent très bien sur quel point actionner. Et donc oui, ce sont des usages stratégiques du droit pour essayer de régler certaines questions et d'attirer l'attention, et ça je crois que c'est tout à fait légitime, sur un certain nombre de comportements qui se jouent pendant les conflits armés, et donc c'est l'un des moyens aussi pour essayer de les faire cesser.
Vous souhaitiez compléter, Raphaël Morel, sur le sujet de la confusion.
Oui, tout à fait, parce que finalement, cette médiatisation qui est effectivement très récente, on l'a eu aussi avec l'affaire de la Gambie contre le Myanmar en fin des années 2010, avant Ukraine-Russie, mais Ukraine-Russie, c'est vraiment le point de départ d'une stratégie globale des acteurs victimes de violations du droit international, de sensibiliser le plus massivement à leur cause, mais cela crée quand même une confusion qui renvoie au caractère contre-productif de l'invocation permanente du génocide dont parlait Julia Grignon au début de notre émission. C'est-à-dire que finalement, à force de médiatiser des conflits, il est à craindre que l'opinion publique finisse par ne plus rien y comprendre. Et c'est là où le rôle des juristes, des historiens et de finalement ce qu'on fait aujourd'hui est vraiment très important. Voilà ce que je voulais ajouter.
En tant qu'historien, Alban Perrin, est-ce que vous saisissez les raisons justement pour lesquelles la notion de génocide prend le pas sur celle de crime contre l'humanité, même sur celle de crime de guerre. Au fond, les juristes nous disent que ce sont trois notions d'importance équivalente. Pourquoi celle de génocide emporte tout ?
C'est une vaste question. Au moment du procès contre Maurice Papon à Bordeaux en 1997-98, l'une des stratégies de défense de Maître Varro, qui défendait l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, était de dire il ne faut pas dévaluer la notion de crime contre l'humanité. Ce que mon client a pu faire ne relève pas de cette catégorie. Et donc, c'était vraiment encore à cette époque-là la notion de crime contre l'humanité qui pouvait apparaître comme celle du crime des crimes. Il y a une telle inflation politique dans l'usage du mot génocide que finalement, cette notion se retrouve elle-même dévaluée et que d'autres notions juridiques sont tout aussi importantes juridiquement. Mais finalement, il n'en est presque plus question. On n'entend pas de tribune dans la presse dénonçant des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. C'est immédiatement le terme génocide qui est utilisé. Et donc, on se demande quel nouveau terme va être utilisé pour faire encore pire le génocide au carré à l'avenir lorsque cette notion sera définitivement dévaluée. Et en l'occurrence, il me semble que la notion de crime contre l'humanité en l'espèce, qui désigne une attaque un ensemble d'actes commis dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée contre une population civile, est-ce que finalement, et c'est d'ailleurs les mandats qui avaient été lancés par la CPI contre Benjamin Netanyahu et Yvan Galland, c'était, est-ce que finalement ça c'est pas plus simple, si on veut vraiment les condamner et les poursuivre, est-ce que c'est pas plus simple, puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité à démontrer, que d'avoir forcément recours à la notion de génocide.
C'est cela le paradoxe aussi, Julia Grignon. Beaucoup de juristes nous disent également que la notion de crime contre l'humanité, de crime de guerre, deux notions qui sont parfois plus facile à démontrer que celle de génocide.
Oui, parce que le crime de guerre, par exemple, si je reprends l'exemple du meurtre, un meurtre est un crime de guerre s'il est commis dans le contexte d'un conflit armé et qu'il est lié à ce conflit armé. Un meurtre est un crime contre l'humanité, comme vous l'avez rappelé, s'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et démontrer l'existence d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, c'est plus facile que de démontrer l'intention génocidaire qui est rattachée au crime de génocide. Donc c'est plus facile, effectivement, de rapporter les preuves matérielles du crime de guerre ou du crime contre l'humanité.
Et effectivement, et la Cour pénale internationale est compétente pour l'ensemble de ces crimes.
Pour l'ensemble de ces crimes qui sont d'égale gravité au sens du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Et donc, effectivement, et ça c'est un peu comme on l'a dit au début, focaliser le débat sur la notion de génocide invisibilise que des actes très graves sont commis, qu'ils relèvent du crime de guerre et du crime contre l'humanité de manière encore plus vraisemblable que du génocide, et que c'est tout aussi grave que des meurtres soient commis et que ou que la privation de nourriture existe dans la bande de Gaza. C'est tout aussi grave, quelle que soit la qualification qu'on porte. Et ce qu'il faut, et Raphaël l'a dit aussi, c'est agir en fait et pas débattre sur les termes. En revanche, par rapport à ce que Raphaël Morel a dit tout à l'heure sur le fait que effectivement les notions étaient un peu mobilisées à tort et à travers, notamment dans le débat public, etc. Moi, au contraire, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que pour une part, j'ai été assez corsetée dans les catégories juridiques. J'ai été très prudente dans le passé à poser les bonnes qualifications, à ne pas parler d'un terme pour un autre, etc. À éventuellement, quand j'écoute la radio, à me dire non, mais c'est pas du tout ça. Et à m'énerver toute
seule. À
vous
agacer.
Voilà. Et aujourd'hui, plus du tout, parce que je crois qu'en fait, le plus important, c'est qu'on en parle et que tout ça invite à agir. Et ensuite, c'est notre rôle, nous, en tant que juristes, historiens, philosophes, de ramener du sens dans le débat depuis chacune de nos disciplines. Et c'est aussi tout le sens de la recherche scientifique. C'est le débat d'idées, c'est la contradiction, c'est l'opposition des idées. Et c'est comme ça qu'on fait aussi avancer les connaissances. Et c'est aussi comme ça qu'on va finir par reconnaître des génocides qu'on n'aurait peut-être pas reconnus dans le passé. Et je crois que c'est un progrès.
Une belle conclusion donc pour ce premier débat de l'année. Merci à tous les trois d'être venus discuter. Julia Grignon, professeure associée en droit international humanitaire à Paris Panthéon Assas, membre du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Alban Perrin, historien spécialiste des génocides du XXe siècle, chargé de cours à Sciences Po Bordeaux. Raphaël Morel, à distance, maître de conférence en droit international à l'Université Bourgogne-Europe. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Mathias Mégy et Antoine Héral. À suivre après le journal Lumière sur une notion, le Grand Israël, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette idée est-elle mobilisée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou? À suivre.